Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Vaincre le terrorisme islamiste, les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans la cour de la préfecture de police lors de l'hommage aux quatre fonctionnaires tués par Michael Harpon. Des mots qui n'ont pas suffi à calmer la colère de la droite qui demande des comptes au gouvernement. Pierre Neveu a suivi les débats à l'Assemblée. Un premier avion Rafale aux couleurs de l'Inde. La livraison a eu lieu ce matin chez Dassault à Mérignac avec Hakim Kasmi. Nous reviendrons sur ce contrat de près de 8 milliards d'euros pour 36 appareils. La mobilisation des agriculteurs aujourd'hui à l'appel de la FNSEA. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté dans toute la France pour dénoncer l'agribashing, un dossier suivi par Anne Lorchouin. Les négociations sur le Brexit à nouveau dans l'impasse. Les derniers contacts entre Boris Johnson et les dirigeants européens n'ont rien donné. Aude Soufi nous appellera de Londres. Sylvie Goulard exclut de démissionner de la Commission européenne si elle est mise en examen. La candidature de l'ancienne ministre française n'a toujours pas été validée par le Parlement européen. Nous ferons le point avec Angélique Boin à Bruxelles. L'hydre islamiste, c'est en ces termes qu'Emmanuel Macron a désigné ce matin le nouvel ennemi de la nation. Le président rendait un hommage solennel aux quatre victimes du terroriste Michael Harpon, trois policiers et un agent administratif tués à coups de couteau la semaine dernière à la préfecture de police de Paris. Le chef de l'État a promis un combat sans relâche contre le terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous convient d'éradiquer, a insisté Emmanuel Macron. Des mots forts qui ne suffiront pas à éteindre la polémique sur les failles qui ont permis à un djihadiste d'infiltrer la préfecture de police. Illustration cet après-midi à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. La droite s'en est prise au ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Le récit de Pierre Neveu.
Et c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui est encore une fois monté au front pour défendre le soldat Castaner, fragilisé depuis jeudi dernier. Le ministre de l'Intérieur a beau expliquer qu'il a dit la vérité telle qu'elle lui avait été rapportée quelques minutes après le drame, rien n'y fait, l'opposition demande des comptes. À l'image de cet échange cet après-midi entre le député Les Républicains des Alpes-Maritimes Éric Ciotti et le Premier ministre Édouard Philippe.
Des questions se posent. Le déni et la banalisation qu'a entretenu le ministre de l'Intérieur ne sont pas supportables et acceptables. Pourquoi un terroriste islamiste a infiltré sans réaction un de nos services de renseignement ? Pourquoi un imam de Gonesse, radicalisé, fiché S, que le terroriste fréquentait, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, a-t-il été régularisé en juin dernier ? Monsieur le Premier ministre, les Français doutent. Peuvent-ils compter sur ceux qui les dirigent aujourd'hui pour les protéger ?
Je ne chercherai pas à désigner du doigt les responsabilités ailleurs, ni sur les éventuels signalements ou non en 2015. En 2015, ceux qui étaient aux responsabilités avaient des urgences absolument essentielles. Ils ont fait face avec les forces de l'ordre et ils ont pris les mesures les plus urgentes, celles qui leur semblaient de nature à prévenir la commission d'autres attentats. De la même façon, monsieur le député, je n'irai pas chercher la prétendue responsabilité de tel ou tel dans tel service. Je suis le chef du gouvernement et j'assume, au nom du gouvernement, tout ce qui a été fait dans l'État. Tout.
Édouard Philippe qui dit avoir entendu l'émotion, la colère et la demande de vérité. Et comme le chef de l'État ce matin dans la cour d'honneur de la préfecture de police, le Premier ministre en appelle à la vigilance de tous pour gagner le combat contre le terrorisme.
Pierre Neveu, merci. Et depuis une demi-heure environ, Christophe Castaner est entendu par la commission des lois de l'Assemblée. Ce matin, le ministre de l'Intérieur et son secrétaire d'État, Laurent Nunez, avaient été auditionnés par la délégation parlementaire au renseignement. Ils ont répondu avec précision, indique le président de la délégation, le sénateur LR Christian Cambon. Le terrorisme islamiste, il en a aussi été question au procès du volet financier de l'affaire Karachi. Le 8 mai 2002 à Karachi au Pakistan, un attentat coûtait la vie à 15 personnes, dont 11 employés de la direction des constructions navales. Ils travaillaient à la construction d'un sous-marin Agusta vendu au Pakistan sous le gouvernement Balladur. Le procès qui a débuté hier doit établir si des rétrocommissions ont été versées en marge de ce contrat d'armement. Sur le banc des prévenus, trois responsables politiques, un industriel et deux intermédiaires. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
Hier, jour de l'ouverture du procès, le juge Marc Trévidic, longtemps en charge de l'enquête sur l'attentat de 2002, accordait un entretien au Monde, démarche inhabituelle de la part d'un ancien magistrat instructeur, sans précédent même, pour reprendre le qualificatif de certains avocats au procès, a fortiori parce que l'instruction est toujours en cours. C'est le juge Trévidic qui, sur la base du rapport Nautilus, un rapport interne commandé par un cadre de la direction des constructions navales, s'oriente le premier vers la piste de l'arrêt des commissions pour expliquer l'attentat de 2002 comme un acte de représailles à cette décision de Jacques Chirac à son arrivée au pouvoir en 1995. Mais ce matin, l'agence France Presse diffuse le contenu d'une note de synthèse de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, adressée en avril dernier au juge David Depasse qui a succédé à Marc Trévidic il y a 4 ans. Cette note balaie les conclusions du rapport Nautilus. Pour la DGSI, à ce stade des investigations, la piste du terrorisme islamiste reste la piste privilégiée. Le document a jeté le trouble au début de l'audience, la défense des prévenus demandant que la note en question, et mieux encore le dossier complet d'instruction, soit versé au débat, avec, selon le parquet, le risque de provoquer le renvoi pur et simple du procès. Mais le tribunal a préféré rejeter l'ensemble de ces demandes et reprendre, il y a une heure à peine, le cours normal des débats sur le seul volet financier, celui qui constitue le cœur de ce procès.
Florence Turme depuis le tribunal correctionnel de Paris. Et pendant ce temps-là, la France continue à livrer des armes dans le monde entier. L'Inde a pris livraison ce matin du premier des 36 avions Rafale commandés en septembre 2016. C'était aujourd'hui sur le tarmac du site du constructeur Dassault Aviation à Mérignac, près de Bordeaux. Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, était présent pour prendre possession du premier Rafale, frappé d'une cocarde aux couleurs indiennes. Un contrat de 7,9 milliards d'euros âprement négocié à Hakim Kasmi.
Initialement, l'Inde voulait fabriquer ses Rafales localement. Mais face à la complexité et au savoir-faire que requiert la construction de l'avion de combat, Dassault et ses principaux équipementiers, Safran pour les moteurs, Thales pour l'électronique embarquée et les radars, ont dû revoir leur copie. Résultat, si les 36 avions seront bien fabriqués en France, à Mérignac, à côté de Bordeaux, Dassault a dû faire des concessions à l'Inde avec du transfert de technologie, ce qu'on appelle les offsets. Notamment pour produire localement une partie de ces avions civils, les Falcon. Éric Trappier, le PDG de Dassault.
Un premier programme qui est de faire fabriquer des pièces de Falcon à Nagpur dans notre JV qu'on a installé avec la construction de hangars, la fabrication des premières pièces qui ont été livrées à Dassault Aviation pour aller sur les Falcon. Et ce programme va se poursuivre et monter en puissance. Mais c'est vrai aussi de Thales qui a un programme aussi à Nagpur. C'est vrai de Safran qui a des obligations d'offset et être capable de travailler avec les industries indiennes, ce qui est en train de se faire un petit peu partout en Inde. C'est pas simplement Nagpur, c'est Delhi, c'est Bombay, c'est Bangalore en particulier où ces offsets vont s'exercer.
Désormais, le groupe aéronautique espère décrocher un nouveau contrat avec l'Inde, puisque New Delhi vient de lancer un nouvel appel d'offres pour des avions de combat pour sa marine. Sur fond de tension avec le Pakistan et la Chine, et n'exclut pas cette fois, en cas de victoire finale, de produire localement en Inde des pièces du Rafale.
Hakim Kasmi. France, veux-tu encore de tes paysans? C'est sous ce slogan que des milliers d'agriculteurs ont manifesté aujourd'hui un peu partout dans le pays. Ils répondaient à l'appel de leur syndicat majoritaire, la FNSEA, et les jeunes agriculteurs. La mobilisation a été particulièrement forte dans l'est de la France, avec plus de 600 tracteurs en Alsace sur les autoroutes. Important blocage également en Auvergne et en Nouvelle-Aquitaine. Anne-Laure Chouin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les deux syndicats ont fait le point à la mi-journée sur l'ampleur de leur mouvement.
Oui, et ils qualifient ce premier avertissement de succès avec des blocages ou des opérations escargots dans tous les départements. Au plus fort de la mobilisation, 6000 tracteurs étaient sur les routes, soit près de 10 000 agriculteurs mobilisés, toujours selon les comptages de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. En ce moment même, les deux syndicats sont reçus par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, pour lui exposer leurs revendications. Certaines de ces revendications sont anciennes, la non-ratification du CETA, la non-surtransposition des règles européennes. D'autres sont plus nouvelles, notamment celles concernant l'agri-bashing ou, pour simplifier, l'image dégradée des agriculteurs dans l'opinion. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Tout est prétexte à critiquer. Aujourd'hui, c'est les pesticides, les produits phytosanitaires, où certains disent n'importe quoi, y compris les plus grands dirigeants, comme Ségolène Royal, qui s'est fait retoquer par tous les médecins. Donc nous voulons que la parole scientifique prévale et que dans les décisions qui vont être prises, à la fois pour l'homologation de certains produits phytosanitaires, pour la protection des riverains, ce soit les scientifiques qui soient écoutés et non pas l'émotion, le sondage qui fera la décision. Ça, c'est très concret.
Le syndicat demande également la création d'un délit d'entrave visant les personnes qui s'introduisent clandestinement dans les exploitations agricoles et l'expression d'une parole politique plus forte. Il faut que le président de la République mette les pieds dans la terre plus souvent, selon Christiane Lambert toujours, qui estime que l'agriculture en France dévisse et que c'est aussi la faute des politiques. Cette manifestation sera suivie d'autres, des opérations dans les supermarchés, notamment la semaine prochaine, et une nouvelle manifestation nationale le 22 octobre.
Anne-Laure Chouin, merci. Autre manifestation nationale aujourd'hui, celle des retraités appelés à défiler à l'appel de 9 syndicats. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont marché entre Montparnasse et les Invalides. Les retraités ne sont pas des nantis. Revalorisation des pensions, pouvait-on lire sur la banderole de tête. Les retraités, on en reparle après ce journal dans le temps du débat d'Emmanuel Laurentin avec cette question. Comment repenser le pacte intergénérationnel ? Les négociations sur le Brexit sont-elles au bord de la rupture ? La question se pose ce soir à 3 semaines maintenant de l'échéance du 31 octobre, la date à laquelle Boris Johnson veut voir le Royaume-Uni quitter coûte que coûte l'Union européenne. Le Premier ministre britannique reste sur ses dernières propositions sur l'aménagement de la frontière irlandaise, propositions jugées insuffisantes à Bruxelles. Aude Soufie, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Londres, Aude, Boris Johnson a eu un échange téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel aujourd'hui et cette conversation n'a pas donné grand-chose.
C'est en tout cas ce que dit Downing Street. La chancelière allemande, elle, répète que les conversations entre les dirigeants sont confidentielles. À la mi-journée, les collaborateurs de Boris Johnson ont annoncé que les négociations étaient sur le point d'échouer et qu'Angela Merkel avait jugé un accord extrêmement improbable. Et donc, toute l'après-midi, au Parlement, à la télé, sur les radios ici, on a entendu les proches du Premier ministre dire qu'on s'oriente maintenant vers un no deal, une sortie sans accord au 31 octobre. Mais pour ses opposants, c'est depuis le début, la stratégie de Boris Johnson, faire des propositions que l'Europe ne pouvait pas accepter pour donner l'impression de faire preuve de bonne volonté et ensuite blâmer Bruxelles pour l'échec des discussions. Et dans un message posté sur son compte Twitter, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a d'ailleurs accusé le chef de l'exécutif britannique de jouer à un stupide jeu des reproches, soulignant que l'enjeu est l'avenir de l'Europe et du Royaume-Uni. Vous ne voulez pas d'accord, a-t-il écrit, vous ne voulez pas de prolongation. Vous ne voulez pas de révocation, quo vadis, où allez-vous donc ? Les deux hommes se retrouveront dans un peu plus d'une semaine, les 17 et 18 octobre, avec les 27 chefs d'État et de gouvernement, pour un sommet européen qui s'annonce donc tendu.
Aude Soufie en direct de Londres, merci. Europe toujours avec le feuilleton Sylvie Goulard. La candidate française à la Commission européenne n'est toujours pas assurée d'intégrer l'équipe de la présidente Ursula von der Leyen. Lors d'une première audition devant le Parlement européen, elle avait dû s'expliquer sur 2 affaires la concernant. L'enquête sur des emplois fictifs présumés au Modem, son parti, et sa collaboration avec un think tank américain, l'Institut Berggruen. Explications jugées insuffisantes qui ont obligé Sylvie Goulard à rédiger de nouvelles réponses aux questions des eurodéputés. Et la candidate d'Emmanuel Macron a posé des limites. Elle exclut toute démission automatique en cas de mise en examen. Angélique Boin nous appelle de Bruxelles.
C'est un document de 58 pages que la candidate a adressé aux députés. Sur l'affaire de l'emploi présumé fictif d'un assistant parlementaire, elle ne démissionnera qu'en cas de condamnation définitive, dit-elle. Pour une mise en examen, je me demanderai si je peux continuer à exercer efficacement mon mandat, puis je m'en remettrai à la future présidente de la Commission. Une réponse qui risque d'être assez mal reçue par une partie des eurodéputés. Sur l'autre dossier qui empoisonne sa candidature, Sylvie Goulard tente de convaincre de son intégrité. Je n'avais aucune relation d'aucune sorte avec les activités commerciales de Monsieur Berggruen, écrit-elle, avant de détailler les tâches qu'elle effectuait pour la fondation du milliardaire, planification de réunions, rédaction de synthèses, de documents, identification de conférenciers. A-t-elle mis en relation cet homme avec Emmanuel Macron en vue du financement de sa campagne électorale ? Non, les deux hommes se connaissaient avant, répond-elle en réfutant à plusieurs reprises tout conflit d'intérêts. Aucun fait corroborant des soupçons de ce type n'a été établi par l'Office antifraude de l'Union, révèle par ailleurs l'intéressé. Un texte dans lequel elle répond répond également longuement aux eurodéputés qui l'interrogent sur la politique qu'elle voudra mener. Sylvie Goulard tente de rassurer sur la grosseur de son portefeuille. Le numérique, l'industrie, la défense, il y a plein de synergies. Je travaillerai dur, promet celle dont le seul atout qui lui est unanimement reconnu est sa compétence et sa force de travail. Mais cela suffira-t-il à convaincre ou devra-t-elle passer une seconde audition? La décision devait être rendue aujourd'hui, mais elle a été renvoyée à demain. Signe que les discussions vont bon train entre les trois grandes familles politiques qui ont la majorité, confie une source bien informée.
Angélique Bouin, correspondante à Bruxelles. Donald Trump l'affirme la main sur le cœur. Les États-Unis ne vont pas abandonner les Kurdes de Syrie, surtout s'ils sont menacés par les Turcs. Ce sont des gens formidables, de merveilleux combattants, a tweeté aujourd'hui le président américain. Pourtant, la Maison-Blanche avait annoncé dimanche un retrait des troupes américaines stationnées dans le nord de la Syrie. Retrait minimisé depuis, il ne serait question que de quelques dizaines de soldats redéployés dans le pays. En attendant, la Turquie de l'islamo-conservateur Erdogan accélère ses préparatifs en vue d'une intervention militaire sur le sol syrien contre les milices kurdes. La correspondance d'Anne Andloer à Istanbul.
Si l'armée turque n'a pas encore frappé les cibles kurdes en Syrie, ce n'est pas que le président Recep Tayyip Erdogan a renoncé à l'opération ou qu'il envisage de le faire. Le ministère de la Défense a répété ces dernières heures que ses troupes étaient prêtes à franchir la frontière. Ankara temporise d'abord pour s'assurer que les soldats américains ont complètement évacué la zone concernée par la première étape de son offensive. Selon des sources turques, cela pourrait prendre plusieurs jours. Ensuite, les autorités turques sont en train de jauger les réactions des uns et des autres à l'international. Les dernières déclarations du président américain Donald Trump ne sont pas forcément perçues comme une volte-face, puisqu'Ankara n'a jamais considéré que les États-Unis annonçaient leur retrait total du nord de la Syrie, seulement du voisinage immédiat de la frontière turque. Reste que les propos contradictoires en provenance de Washington encouragent les Turcs à attendre d'y voir un peu plus clair. En fait, qu'il s'agisse des Iraniens, des Russes, des Européens ou des Américains, le président Erdogan est parfaitement conscient de l'opposition unanime que suscitent ses plans militaires. Cela ne le dissuade pas pour autant. « Nous n'accepterons jamais un État terroriste à nos frontières », a martelé son vice-président Fuat Oktay en référence au projet autonomiste des forces kurdes dans le nord syrien, et d'ajouter, cette fois-ci dans une allusion tant militaire que diplomatique, « La Turquie n'est pas un pays qui agit en fonction des menaces, quel qu'en soit le prix ».
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. Quand le sport professionnel s'invite dans les questions géopolitiques, la télévision publique chinoise a annoncé qu'elle allait suspendre la diffusion prévue cette semaine des matchs d'exhibition de la NBA en Chine. La NBA, c'est le prestigieux championnat américain de basket. Il s'agit du dernier rebondissement après un tweet controversé du directeur général du club des Houston Rockets. Un tweet qui soutenait les manifestants de Hong Kong. À coup d'excuses, la NBA avait tenté en vain de calmer la situation avec Pékin, mais rien n'y fait, la Chine est susceptible et semble surtout ne plus vouloir rien laisser passer, Nathanaël Charbonnier.
Il est inconcevable d'avoir des échanges et des coopérations avec des Chinois sans connaître ni comprendre l'opinion publique chinoise, a expliqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères pour justifier la suspension de la diffusion des matchs de basket. Ça, c'est pour ce matin 9h30, mais à 10h54, le porte-parole de la diplomatie chinoise est aussi monté au créneau sur le dossier des Ouïghours. Il faut dire que les États-Unis ont rendu publique une liste noire de 28 lieux chinois dans l'ouest du pays où serait réprimée la minorité musulmane. Ça, c'est pour ce matin 10h54, mais hier à 12h06, c'est l'ambassade de Chine à Paris qui voyait rouge. Dans un communiqué, elle faisait savoir qu'elle n'appréciait pas du tout les prises de position de la France sur les événements à Hong Kong. Alors on peut se demander pourquoi une telle susceptibilité. L'une des réponses possibles peut se trouver dans l'actualité. Cette semaine, on doit remettre le prix Nobel de la paix. Ce mardi, les lauréats finalistes du prix Sakharov seront connus et un nom revient dans ceux qui pourraient être distingués. Il s'agit du chinois Ilham Toti, grand défenseur de la cause ouïghour, condamné en 2014 à la prison à vie. Or, les Chinois n'aiment pas être montrés du doigt par la communauté internationale. À titre d'exemple, le Dalai Lama, prix Nobel de la paix en 1989 pour sa défense du Tibet, reste toujours un opposant 30 ans après.
Nathanaël Charbonnier, merci. Le mystère en Allemagne autour d'une collision volontaire provoquée par un Syrien au volant d'un camion volé. Les faits ont eu lieu hier soir à Limbourg, près de Francfort. L'homme semble avoir foncé délibérément sur plusieurs voitures, faisant 8 blessés. Au total, il a été interpellé. Dans un premier temps, les médias outre-Rhin avaient évoqué un possible attentat. Mais à ce stade, le parquet antiterroriste allemand n'a pas été saisi de cette affaire. On termine avec la météo. Demain, le temps sera agité et pluvieux sur tout le pays, sauf sur le pourtour méditerranéen où le soleil s'imposera. Les pluies seront soutenues sur les Alpes du Nord et il neigera même en fin de journée vers 2000 mètres d'altitude. Les températures minimales varieront de 9 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales, quant à elles, évolueront entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.